ce que ça veut dire vraiment. Mais Seigneur, je veux marcher comme un, comme une de tes créatures et porter cette image, Seigneur, à ton honneur. Je te demande, Père, de bénir ce temps dans ta parole. Aide-nous à comprendre cette dimension, Seigneur, de ce combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, ce matin, on parle des anges et de Satan. Ça n'arrive pas souvent qu'on parle de Satan directement ici, ni des anges d'ailleurs. Qui sont les anges? Pourquoi Dieu les a-t-il créés? Qu'est-ce que les chrétiens devraient penser de Satan et des démons aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il y en est de la guerre spirituelle? Un agenda pas mal vaste pour un matin, mais on va essayer de couvrir ce sujet-là. La semaine prochaine, j'ai pas de classe, d'accord? Parce que nous, on est en vacances, on tombe en vacances cet après-midi pour une semaine. Et mon remplaçant potentiel est débordé. Donc, la semaine prochaine, vous allez avoir une pause. Et la semaine suivante, on recommence avec le péché, la doctrine du péché, la chute de l'homme, implication du péché, tout ça. Je vous ai envoyé le plan, d'accord? Qui sont les anges? Définition, les anges sont des êtres spirituels créés, doués de jugement moral et d'une grande intelligence, mais sans corps physique. On n'a pas énormément d'informations sur les anges. Les Écritures en parlent à plusieurs reprises, mais on n'a pas beaucoup d'informations. On peut affirmer ces choses-là. Les anges sont des êtres spirituels créés, donc pas éternels, doués de jugement moral, puisqu'ils vont faire certains choix, certains moraux. Hein, un certain nombre d'entre eux ont fait un choix néfaste pour eux-mêmes. D'une grande intelligence, c'est évident, de par leur compréhension. On ne parle pas d'espèces animales, on parle vraiment d'êtres qui sont doués d'intelligence, comme nous, possiblement plus, mais sans corps physique. D'accord? Alors, ce sont des êtres spirituels créés. Les anges ont été créés par Dieu, ils n'ont pas toujours existé. La Bible nous enseigne clairement que Dieu est à l'origine de toute chose et de tout être hors de lui-même. D'accord? Simplement en partant de ce principe-là, tout ce qui existe a été créé par Dieu. Les anges sont des êtres créés puisqu'ils ne sont pas Dieu eux-mêmes. Colossiens 1:16, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Là, dans ce cas-là, on parle du Fils, mais c'est dans sa divinité. Alors, la Sainte Trinité a créé les anges. Les dignités, les dominations, les autorités, celles qui sont visibles et invisibles. De même, comme l'apôtre Paul nous enseigne, toutes choses ont été créées en Christ. Le Fils est lui-même créateur de tous ces êtres spirituels. Alors, il y a cet aspect-là déjà. Là, je vais pas m'étendre sur la christologie, mais toute cette idée que le Fils serait un être créé lui-même, non pas faisant partie éternellement de la Trinité, c'est ça. Tout a été créé en Christ, à travers Christ. Et donc, Christ n'est pas à mettre sur le même pied d'égalité pour certaines religions que les anges, pour d'autres religions que Mohamed. Christ est lui-même créateur des anges eux-mêmes. Les anges sont des êtres extraordinaires qui semblent tout simplement fascinants. Ils sont doués d'un sens moral, puisque un certain nombre d'entre eux ont choisi de pécher en se rebellant contre leur Créateur. Alors, lorsqu'on réfléchissait pour savoir qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être à l'image de Dieu, ben juste l'idée qu'on a un sens moral n'est pas suffisant. Les anges eux-mêmes ont un sens moral. D'accord? Les anges ont pu choisir de faire le mal. Et nulle part dans les Écritures, il nous est dit que les anges ont été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Fait qu'on ne pourrait pas juste définir qu'est-ce que ça veut dire être créé à l'image de Dieu par notre sens moral. Dans 2 Pierre 2:4, Pierre dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. » Donc les anges ont un sens moral, ce qui les distingue de plein d'autres êtres ou espèces dans la création. Nulle part, il nous est dit que les animaux pêchent, mais les anges peuvent pécher, nous, on peut pécher. Ils sont essentiellement des êtres spirituels qui peuvent se manifester de manière visible pour exercer leur service auprès de Dieu et des hommes. Les anges sont au service de Dieu et parfois Dieu les envoie pour exercer un ministère envers les élus, soit pour nous protéger, informer des hommes ou se joindre à nous pour adorer Dieu. Hébreux 1, 13, 14. « Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Alors, ce sont des êtres spirituels, des esprits, qui sont au service de Dieu, mais une de leurs fonctions particulières, c'est de venir faire une œuvre en notre faveur, en faveur de ceux qui ont été appelés par Dieu. Quelqu'un qui pourrait, juste quelques exemples d'intervention angélique qu'on voit à travers les Écritures. Juste en levant la main, me mentionner quelques interventions qu'on voit de la part des anges pour nous aider à comprendre quelle sorte de ministère ils peuvent exercer. Oui, Linda? Sodom et Gomorrhe, qu'est-ce qu'ils font? De Lot? Oui, tout à fait. Alors, les anges sont envoyés. D'abord, avant ça, ils accompagnent. Hein? Lorsqu'on regarde un petit peu le passage, on comprend qu'il y a comme Dieu avec deux anges. Fait que c'est assez mystérieux, là, mais par déduction. Donc, ils accompagnent déjà pour aller rencontrer Abraham. Puis après ça, ils sont envoyés à Sodome pour pouvoir retirer Lot. Hein? Et est-ce qu'Abraham n'avait pas intercédé en faveur de Sodome? Fait que c'est intéressant juste de réfléchir sur cette idée-là, là, que Dieu va faire la destruction, Abraham intercède, les anges vont, ils vont retirer Lot, en tout cas. D'autres interventions angéliques dans la Bible. OK? Oui, je pense que oui, hein? Oui, hein? D'autres interventions? Linda? Alors, régulièrement, les anges sont utilisés pour annoncer, pour informer, à plusieurs reprises avec les bergers aussi, d'accord? Non. Ah, tu sais, je ne me rappelais plus de ça. Il faudrait aller le voir. OK, je vais toucher un mot là-dessus, mais c'est confusant avec l'ange de l'Éternel, là. Oui. Fait que ça, je vais revenir sur l'ange de l'Éternel. D'autres exemples encore? OK, fait que des messages, des fois des interventions physiques, des protections, Pierre sortir de prison, d'accord? Il y a des interventions physiques par moment. On voit vraiment cette idée-là qui est bien résumée dans Hébreux 1, 13, 14, lorsqu'il dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, ils ne sont pas à notre service à nous, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Toutes sortes de ministères, des annonces, des interventions, des protections, certainement des combats spirituels aussi qu'on ne voit pas à différents moments. On a ces indices-là qu'il y a littéralement des guerres dans le monde spirituel. Oui. C'est ça. Oui, c'est vrai. Daniel qui est réconforté par un ange. Est-ce que ça veut dire que les anges ne feront jamais aucune intervention envers des gens qui ne sont pas élus? Je ne pense pas qu'on pourrait dire ça, là, parce qu'on n'a pas un répertoire dans la Bible de tout ce que les anges font. Mais c'est pas, les Écritures ne nous disent pas qu'ils ont un mandat spécifique envers ceux qui ne sont pas élus. Leur mandat, pour lequel Dieu les utilise, généralement, ça va plutôt être ça. Mais c'est plus vaste aussi, je veux dire, à la fin, les anges qui annoncent la fin, ils ont d'autres rôles aussi. Mais je serais à l'aise de dire que leur ministère n'est pas premièrement envers ceux qui ne sont pas élus, mais envers les élus, parce que les Écritures sont claires. Oui, Caroline? C'est quoi le sens de ta question?
So we
Oui, je comprends ta question. C'est clair qu'ils ont un libre arbitre, si on veut. Je ne traite pas sur le terme libre arbitre, là, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est clair, parce qu'il y en a qui ont décidé de pécher. OK? Donc, les anges sont des êtres conscients de leur propre existence et qui font des choix. Ça, c'est clair. Est-ce que dans leurs interventions, ils sont toujours comme. Ils attendent toujours un dispatch divin pour dire tu t'en vas sur cette mission-là? J'ai tendance à croire que oui. OK? J'ai tendance à croire que oui, ils ne sont pas comme juste lâchés lousses pour se promener partout, puis c'est comme des bons samaritains qui font des interventions quand ils veulent. On n'a pas d'indices qui vont dans ce sens-là dans les Écritures. Mais c'est des êtres conscients, lucides, qui font des choix individuels. Madeleine, Karen. Oui, c'est une bonne question. Je reviens sur l'ange de l'Éternel et sur la question de l'ange gardien. OK? Mais c'est une bonne question. Vous savez, là, toute la question de est-ce qu'on a un ange gardien? Oui, Karine? Ça serait des pistes. Je veux juste répéter ce que tu as dit, là. Puis, merci, François. Tu veux-tu nous le répéter? Ça va être plus simple. OK. Alors, je vais le répéter. Ce que Karine mentionne, c'est est-ce qu'il y a une distinction, une différence entre les anges et nous? Ce ne serait pas le fait que l'homme crée, l'homme, OK, il se dépasse, il relève des défis, tout ça, alors qu'on semble voir les anges répondre à des missions, des charges, des tasks, là, je m'excuse, spécifiques. Bien, c'est ça. Quand Grudem essaie de comprendre la distinction, parce que finalement, la question qui est plus intéressante pour nous, c'est de se demander finalement en quoi est-ce que nous, on est à l'image de Dieu et les anges ne le sont pas. Et une des pistes que lui donne, il dit, possiblement le simple fait de procréer, puis donc d'avoir un enfant qui est à mon image, parce que la Bible va utiliser la même expression, comme Dieu nous a créé à son image, moi j'ai l'opportunité, non pas de créer, mais de procréer, puis d'avoir des enfants à mon image aussi, à ma ressemblance. Possiblement, Grudem n'a pas mentionné ça, mais je pense que ce serait une bonne piste, l'aspect justement de création, d'exploration, de gérance. Dieu donne le jardin à gérer, mais c'est vraiment comme pour exploiter tout ça, puis en faire quelque chose. Mais dans toutes ces réponses-là, on est en train de spéculer, on est en train d'émettre des hypothèses. Je ne pense pas qu'on a d'indices clairs dans les Écritures qui répondent à ça. Je pense que c'est des hypothèses intéressantes. Je les garderai au niveau de l'hypothèse. On réfléchit, on essaie de voir, on essaie de comprendre. Ah, mais si ça te tente de prendre avec le micro, c'est un service que tu offres ce matin? Merci. Juste ici. OK. Lucie.
En fait, moi, c'est l'archange Gabriel, quand il s'est battu pour le corps de Moïse, je crois, mais il n'a pas dû aller de son propre chef. Ça a dû être Dieu qui l'a envoyé pour combattre, parce qu'il était élu, Moïse.
Oui. Bien, c'est ça. C'est pour ça que je dis, généralement, ce qu'on voit, la question de Caroline, est-ce qu'ils prennent des initiatives personnelles ou est-ce qu'ils sont en mission? Mais à ma souvenance, tous les exemples qu'on a dans les Écritures, ils sont dans mission. D'accord? Mais est-ce qu'ils sont capables de prendre une décision personnelle ou est-ce qu'ils ont conscience d'eux-mêmes? C'est très clair que oui, puisqu'ils prennent, certains d'entre eux ont pris la décision de se rebeller contre Dieu. C'est une conscience de soi, puis c'est un choix individuel très, très fort de pouvoir faire ça. Ça va? On va avancer encore un petit peu à travers la matière pour parler des questions qui sont restées en suspens. Ben, ça me revient pas, là. Ça me revient pas quel passage. Mais écoutez, on connaît les noms de deux anges. Ah. Mais tes révélations personnelles, on va te demander de les garder pour toi. Nous, on va s'en tenir à la révélation générale. OK? Mais c'est clair qu'ils ont une individualité. On a le nom d'au moins deux anges. D'accord? Je veux dire, à partir du moment où des anges sont individualisés par leur nom, on se rapproche quand même de Caroline, Madeleine, Yannick, tu sais, dans ce sens-là. Mais en même temps, ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. On n'a rien qui nous permettrait d'affirmer ça. C'est un moment important au moment de la création de l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu, puis tout le plan de rédemption est lié à ça. On va essayer de couvrir ça aussi ce matin. Alors, on a d'autres êtres célestes qu'on pourrait probablement mettre avec les anges, mais ce n'est pas toujours clair que c'est nécessairement, ils font nécessairement partie des anges. Alors, on a les chérubins qui sont plus présents que les deux autres, parce qu'ils sont mentionnés même liés à l'autel, à l'arche de l'Alliance, tout ça, c'est des chérubins qui sont là. Les chérubins protecteurs à l'entrée du jardin, lorsque l'homme est chassé, ce sont des chérubins qui sont là pour protéger. Les séraphins, dans Ésaïe, nous trouvons la seule mention des séraphins qui se tiennent devant Dieu et l'adorent. Alors, Ésaïe 6, 2 à 7, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds. Puis là, on arrive comme une espèce de description qui ressemble beaucoup aux chérubins, mais ils sont appelés des séraphins. Okay. Les êtres vivants qu'on trouve dans Ézéchiel, dans Apocalypse, est-ce qu'ils sont classés parmi les anges? C'est pas clair, là. D'accord? Mais la description qui en est faite est assez particulière. Là. Les quatre êtres vivants, si vous allez vers la fin de ma citation, verset 8, les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc, probablement qu'on n'a pas un échantillonnage complet de ce qui se passe de l'autre côté. D'accord? C'est beaucoup plus vaste qu'on le pense. C'est un monde qui nous est invisible et il devient visible lorsqu'il veut bien être visible. Puis on peut le dire comme ça. Là, on a des pistes, on a des indices, mais par Colossiens, admettons, où Paul va parler des dominations des autorités visibles et invisibles, il y a probablement d'autres choses aussi qui ne sont pas mentionnées dans les Écritures. Mais ça nous donne quand même une perspective d'un monde qui est assez extraordinaire pour nous. J'allais dire fantastique, mais pas fantastique dans le sens du réel. 3, la hiérarchie angélique. Nous trouvons une hiérarchie parmi les anges. Ainsi, Michael est présenté comme un archange. Alors, son seul titre nous indique qu'il y a une hiérarchie. Ce qui le place au-dessus de certains anges. Alors, je vous laisse les références, vous pourrez juste aller le voir. D'accord? Mais il y aurait une hiérarchie parmi les anges. Certains d'entre eux sont placés comme à la direction d'autres. Pardon. Certaines caractéristiques des anges. Les anges ne sont pas omniprésents. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être présents à plusieurs endroits à la fois. Ils n'ont pas le don d'ubiquité, si ça vous tente d'enrichir votre français ce matin. D'ubiquité. Et ils ne sont pas omniprésents comme Dieu. Ce qui nous amène à dire ça simplement, c'est que régulièrement, ils ont des missions de se déplacer, de se rendre à quelque part. Donc, ils ne sont pas omniprésents. Les anges sont très nombreux. On n'a absolument aucune idée du nombre, mais ils sont très nombreux, ça c'est clair. On parle de myriades d'anges. Ils ne se marient pas. Jésus nous donne un petit scoop.
Excuse-moi.
Oui.
Une myriade, c'est 10 000. Hein?
OK.
Est-ce que c'est 10 000?
Je ne sais pas. J'ai essayé d'aller chercher, puis ce que j'ai trouvé, c'est un grand nombre. C'est ça, hein? Je suis pas sûr que c'est un chiffre. Tu peux checker ça sur Antidote, non? Merci.
Antidote.
Un dictionnaire. On continue. Donc, c'est ça, les anges ne se marient pas. D'où Grudem et Malip. Bon, fait que des myriades, il y en a une couple.
Parce que, bon. En fait, dans l'Apocalypse, je me souviens bien, on parle d'une armée de 2 myriades, quelque chose comme ça.
Ça se peut.
On dit que c'est 200 millions.
OK. Mais tu as d'autres mentions plutôt dans les psaumes qui semblent plutôt aller dans l'incalculable. OK, merci François. Excellent. Donc, c'est ça, les anges ne se marient pas. C'est un privilège que nous avons maintenant. seulement. Et donc, c'est ça qui amène Grudem à émettre cette hypothèse d'une des distinctions avec les anges qui aiderait peut-être à comprendre en quoi on a été créé à l'image de Dieu, cette possibilité que nous avons de procréer, de créer d'autres à notre image. Mais il n'y a pas de réponse parfaite. Je veux dire, les animaux peuvent le faire aussi. D'accord? Okay. Ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu, tu sais. Mais en même temps, il y a ce terme qui est utilisé où Dieu nous crée à son image, puis je ne me souviens pas de mes passages, là, mais dans l'Ancien Testament, au début de la Genèse, il y a cette idée qu'il était à sa ressemblance à son image. C'est le même langage qui est utilisé. Ils sont des êtres d'une grande puissance, plus puissants en force que les hommes. Psaume 103, 20. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. 2 Pierre 2, 11. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles des jugements injurieux. Je suis pas sûr que je reviens. Je pense qu'on revient un petit peu plus loin pour l'idée d'ange gardien. Pour ce qui est de l'ange de l'Éternel, okay, je n'avais pas le temps pour pouvoir ajouter un paragraphe là-dessus. Dans l'Ancien Testament, à quelques reprises, il est fait mention de l'ange de l'Éternel. Dans certains passages, ça ne peut pas être autre que Dieu lui-même. D'accord? Et dans d'autres passages, ça serait difficile de croire qu'il s'agit de Dieu. Si vous prenez le temps là, juste de prendre une concordance ou d'aller sur Bible Online puis de sortir tous les versets où vous avez l'ange de l'Éternel, vous commencez à les regarder. Dans certains cas, c'est une manifestation de Dieu lui-même. Ce qui nous amène à dire, dans notre christologie, dans notre compréhension de Christ, qu'on assiste à une apparition de Dieu, c'est une théophanie. Puis dans notre compréhension, quand Dieu se manifeste comme ça de manière visible, probablement que c'est Christ qui est là, probablement. Je ne vais pas aller plus loin que probablement, mais c'est ça qui est le plus logique. D'accord? Alors, dans plusieurs cas, lorsque l'ange de l'Éternel est mentionné, c'est clair que c'est Dieu qui est là. Et ce n'est pas comme Dieu qui est caché derrière un ange, c'est Dieu qui est présent parce qu'il va employer le « je » avec des prérogatives divines. D'accord? Dans d'autres cas, ça ne peut pas être Dieu. Et donc, c'est un ange qui est mandaté au nom de l'Éternel. OK? Fait que juste, quand vous allez croiser ces passages-là, prenez le temps d'examiner le contexte pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Est-ce que c'est un ou l'autre? Comme je vous dis, c'est pas toujours évident. Ça va? Oui.
Dans la Bible. Tu veux que je recommence?
Non, ça va. Peut-être pour les autres, oui.
OK. Dans le psaume 103, dans le fond, je trouve ça juste drôle que la Bible parle directement aux anges.
OK, mais je veux dire, on est dans les psaumes, on est dans un langage poétique puis souvent prophétique, fait que les psaumes sont vraiment bizarres. Ils ne parlent pas juste aux anges, ils parlent aux arbres aussi. Hein, ils disent aux arbres de taper des mains. Fait qu'on est dans les psaumes, puis c'est l'adorateur qui est en train de convoquer toute la création à venir adorer Dieu. Et donc, il s'adresse aux anges, puis il dit, bénissez Dieu, regardez comment Dieu vous a fait. Et de fait, la fonction principale qu'on connaît aux anges, c'est d'adorer Dieu. Ça, c'est clair. On est dans le contexte de ce langage-là. Moi, je vous dirais que c'est le genre de choses qu'on devrait entrer dans notre louange. Nous, lorsqu'on est en train d'adorer le dimanche matin, lorsque vous êtes en train de faire votre culte, je veux dire, on parle à Dieu, puis on se parle à nous. Tu sais? Mais le psalmiste est assez exalté pour s'adresser aux anges qui sont là, puis dire « Louez Dieu, là! Réalisez-vous que vous voyez sa face, moi j'ai hâte de voir sa face! » Mais c'est dans ce sens-là. D'accord? C'est l'adorateur qui laisse son cœur s'exprimer. Samuel? Oui. Mais la nuance que je ferais, là, Samuel, c'est un bon commentaire. Tu veux juste le répéter dans le micro, s'il te plaît?
Oui. Les anges ont principale fonction d'adorer Dieu, mais l'affaire, c'est que nous aussi, notre principale fonction, c'est d'adorer Dieu.
La nuance que je ferais, là, c'est que comme les anges et nous, on doit le but pour lequel on a été créé, premièrement, c'est pour glorifier Dieu. OK? Les anges, on les voit à de nombreuses reprises, leur activité principale semble être celle d'adorer Dieu. Lorsqu'ils sont en présence de Dieu, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Je ne suis pas certain que, dans le cas des hommes, étant donné cet aspect-là de création, on ne sera pas appelé même dans l'éternité à le glorifier autrement que simplement en étant devant lui. C'est clair que maintenant, ce n'est pas ça. Donc, notre rôle principal, c'est de glorifier Dieu. On le fait de plein de manières, pas simplement en étant devant lui, en train de lui chanter des louanges. Tu comprends? Nous, on le fait de plein d'autres manières. C'est vrai pour les anges aussi, mais ma compréhension, c'est que les anges sont particulièrement consacrés à être là devant Dieu et à l'adorer. On arrive dans l'Apocalypse, puis il semble que les élus font ça beaucoup aussi. Là. Fait que, juste une nuance. À cause de cet aspect-là de création qui nous est donné à nous. D'accord? La place des anges dans le plan de Dieu. Les anges montrent la grandeur de l'amour et du plan de Dieu pour nous. Alors, c'est sûr que les anges, dans le plan de Dieu, sont là pour l'adorer, sont là pour le glorifier, ça c'est clair. Maintenant, dans le plan, quand on parle du plan de Dieu, ici on est en train de parler de ce qu'on a de la Genèse à l'Apocalypse, l'histoire de la rédemption, le plan de rédemption, le plan de salut. Les anges ont un rôle vraiment particulier. Ils sont là pour nous aider à comprendre un peu mieux Dieu, à connaître un peu mieux Dieu, à connaître un peu mieux qui Dieu est pour nous aussi. Et donc, il y a des choses que Dieu fait avec les anges. Il y a des choses que Dieu nous révèle sur sa manière de traiter les anges qui nous aident à nous découvrir nous-mêmes. Je vais donner l'exemple le plus clair, c'est qu'il n'y a pas de plan de rachat. Il n'y a pas de plan de rédemption pour les anges. Ça, c'est quelque chose de majeur. D'accord? Il y a un plan de rédemption pour les hommes, il n'y a pas de plan de rédemption pour les anges. C'est énorme, ça. Et donc, les anges nous aident à connaître Dieu, à nous connaître nous-mêmes par les privilèges qui nous sont accordés à nous. Tu veux-tu aller dans le micro, même si c'est une bonne voix?
Oui, le fait que les anges se sont rebellés m'amène à penser qu'ils n'étaient probablement pas conscients de la toute-puissance de Dieu. Puis du fait aussi qu'il n'y avait pas de plan de rédemption, sinon il ne se serait jamais rebellé.
Oui, OK. Donc, je viens à toi, Stéphane, ça va pas.
Donc.
C'est ça, parce que Adam et Ève non plus, je pense pas qu'ils avaient l'idée qu'il y avait un plan de rédemption possible. Puis je pense pas qu'ils étaient conscients de la toute-puissance de Dieu vraiment. C'est le propre du péché, hein? C'est l'aveuglement puis la bêtise. Ce qui fait que Victor Hugo décrit très bien Satan en train de maudire Dieu pour l'éternité. Puis Victor Hugo décrit très, très bien Satan dans la fin de Satan lorsqu'il dit « Satan va passer l'éternité à dire « Je vais te battre, je vais te battre, je vais te battre, je vais te battre, je vais te battre. » Ça fait longtemps que tu as perdu. Non, non, je vais te battre, je vais te battre. C'est le propre du péché lui-même. Oui. C'est ça. Parce qu'il leur est révélé, puis ils ne saisissent même pas nécessairement toutes les dimensions de ça. Oui. Donc, ce que Stéphane dit, c'est que les anges ne savaient même pas qu'il y avait un plan de rédemption pour les hommes non plus. D'accord? Mais c'est ça. Ça, c'est le propre de la folie du péché. Hein? Le péché, il y a une puissance d'aveuglement sur l'être humain. Sur tout être, on va dire. En tout cas, les anges puis nous.
Si je peux me permettre un commentaire.
Oui, étant donné que tu as le micro. Hein?
Étant donné que j'ai le micro, oui. Je suis tout puissant.
Jésus est mort pour ça aussi, François.
Les anges, ils ne savaient pas qu'il y avait un
plan de rédemption pour les hommes.
Un plan de rédemption pour les hommes. Puis là, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Mais quand même, je veux dire, il était comme en position aussi de ne pas avoir à se rebeller là, non plus.
Là, je te suis pas.
Tu me suis pas, hein?
Non. Non,
il était devant la face de Dieu. Puis, en fait, j'ai perdu le fil. Là.
Ça reviendra.
Oui, désolé.
OK, pas de problème. C'est un micro sans fil. Tout comme les hommes, les anges sont les seuls êtres doués d'un sens moral et d'une grande intelligence. On l'a mentionné. OK, la place des anges dans le plan de Dieu, c'est de manifester la grandeur et l'amour de Dieu. Une première distinction majeure est le fait que la Bible ne fait aucune mention que les anges qui aient été créés à l'image de Dieu. Alors ça, c'est quelque chose. C'est difficile de comprendre exactement ce que ça veut dire, mais on n'a aucune mention qui nous dit que les anges aient été créés à l'image de Dieu, ce qui peut nous aider à comprendre après pourquoi Dieu aurait eu un plan de rédemption pour les hommes. Parce que nous avons été créés à son image. D'accord? Ainsi, d'une certaine manière, nous pouvons conclure que nous sommes davantage à l'image de Dieu que les anges. En quoi? J'ai hâte qu'on me donne beaucoup plus d'infos là-dessus, mais on peut quand même conclure ça. En effet, l'apôtre Paul nous dit qu'un jour, il sera confié aux élus le mandat de juger les anges, ce qui est assez extraordinaire. Quand on dit que les anges nous aident à comprendre le plan de Dieu puis l'amour de Dieu pour nous, bien, juste dans cette déclaration-là, le fait que Paul nous dise qu'un jour, on va avoir comme mission de juger les anges, devrait nous humilier profondément puis nous amener à adorer Dieu. Je veux dire, si un ange se pointait ici puis qu'il décidait de faire un fist fight avec moi, vous comprenez, je serais mort, là. Fait que qui suis-je pour juger un ange? Je veux dire, ils sont supérieurs à nous en force et en puissance. Et pourtant, Dieu, dans son plan, l'a décidé ainsi. Ça nous aide à connaître Dieu, à comprendre son plan pour nous, son amour pour nous. Oui, Esther. C'est une bonne question.
Dieu, il nous aime beaucoup. Est-ce que Dieu n'a pas manqué d'amour pour les anges?
J'aime pas le terme manquer pour Dieu, là, parce que je pense pas qu'il a manqué son coup en rien. Mais je dirais qu'il a décidé de ne pas faire grâce. Fait que je questionnerais plutôt la question de la grâce. Dieu a décidé de ne pas faire grâce aux anges. Oui, c'est pour ça que c'est des questions difficiles. Mais est-ce que Dieu... C'est ça. Dieu a décidé que ces êtres-là n'auraient pas droit à la grâce. D'après moi, le point majeur au niveau du plan de rédemption, c'est le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Okay? Bibliquement, je pense que ça pointe plutôt dans cette direction-là, puisque à travers Christ, cette image de Dieu en nous est restaurée, et Christ est l'image parfaite de Dieu. Même comme homme, il incarne ça parfaitement. Puis le plan, c'est qu'on redevienne nous-mêmes comme Christ, donc on redevienne comme Adam, si je peux dire. Fait que je pense que cette grâce particulière qui est offerte aux hommes est liée à ce destin unique pour l'être humain d'avoir été créé à l'image de Dieu et de représenter Dieu en étant porteur de l'image de Dieu. Est-ce que Dieu a manqué d'amour envers eux? Je dirais plutôt qu'il n'y avait pas de grâce dans le plan de Dieu pour les anges. D'accord? Il y a eu l'amour de les créer, il les a invités à venir l'adorer pour l'éternité, mais il n'y avait pas de place pour la grâce pour les anges. Ça, c'est très clair. Il est possible, mais il ne s'agit que d'une hypothèse, je l'ai mentionné tantôt, que notre ressemblance à Dieu vienne, entre autres, du fait, je m'excuse, il y a plusieurs fautes, entre autres, du fait que Dieu... il y a plein de fautes là-dedans. On peut procréer, c'est ça que je voulais dire. Le fait qu'aucun plan de rédemption ne soit présenté pour le salut des anges qui se sont rebellés contre Dieu nous parle de la grandeur de l'amour de Dieu pour les hommes. Fait que dans le fond, on pourrait dire que Dieu avait moins d'amour pour eux. En effet, Dieu exerce une justice parfaite et sainte en jugeant les anges, et rien ne le contraint à exercer sa grâce. Il le fait pourtant pour des millions d'hommes. OK, fait que quand on essaie de comprendre qui est Dieu, puis on essaie d'honorer Dieu, de pas tirer des conclusions qui seraient juste de projeter notre cœur dans le cœur de Dieu. On va dire plutôt les choses comme ça ici. En effet, Dieu exerce une justice parfaite et sainte en jugeant les anges, et rien ne le contraint à exercer sa grâce. D'accord? Je suis au bas de la page 5. Et donc, Dieu n'est pas injuste avec les anges, il décide d'être uniquement juste avec les anges et non pas gracieux. Oui, Jérémy.
C'est pas on voit en lui parfois, puis qu'eux, ils l'ont vu à la création. Alors, je vais leur dire.
Oui, juste le répéter.
Ben, je ne me rappelle plus, je ne peux pas répéter.
Est-ce que Dieu n'est pas davantage glorifié du fait que nous, on croit par la foi?
Ouais.
C'est ça ton point. Alors qu'eux le voient, puis Dieu serait glorifié du fait qu'il y a une repentance, puis une foi qu'on croit en lui juste en y allant par la foi. Possiblement. Étienne, on va commencer avec Stéphane, puis après ça, Étienne.
Peut-être mentionner que dans l'Ancienne Alliance, il y a des gens qui ont vu Dieu, entre guillemets, qui ont vu ses miracles et qui ont vu tout ce qu'il faisait. Et en ce sens, ils sont peut-être moins méritants que nous. Pourquoi pas, je ne dis pas que c'est la réalité, là, mais tu comprends, j'essaie de suivre ton raisonnement. Le fait qu'eux ont vu Dieu, ils ont vu des œuvres de Dieu que nous autres, on n'a pas vues. T'sais. Jésus, ils l'ont vu, ils ont vu ses miracles. Ah, tu crois parce que tu m'as vu? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais je ne pense pas qu'il y ait une question
Non, je pense vraiment que la direction dans laquelle les Écritures pointent par rapport au plan de rédemption, c'est la notion d'image de Dieu. C'est le fait qu'on a été créé à l'image de Dieu. Dieu a décidé de faire grâce. Mais entendons-nous, ce n'est pas tous les hommes qui vont être sauvés. Et donc, il y a plein de gens qui ont été créés à l'image de Dieu qui ne seront pas sauvés. Mais qu'est-ce qui ferait qu'il y aurait ça dans le plan? François, si tu veux aller voir juste Étienne. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ça dans le plan de Dieu? Selon moi, c'est plutôt dans ce sens-là que les Écritures pointent. C'est le fait que l'être humain, comme espèce, a été créé à l'image de Dieu. Oui?
Oui, c'est mentionné, c'est par la foi que tu vas être sauvé.
Oui.
Et les anges y voient tout. Ils sont dans la présence de Dieu. Puis Stéphane, il le dit, heureux ceux qui auront vu sans avoir, qui auront cru sans avoir vu. Je pense que la relation, les anges avec Dieu, c'est pas la même.
Juste rapprocher le micro, s'il te plaît.
C'est pas la même la relation, les anges avec Dieu qu'avec nous. Là,
parce c'est que sûr que.
Nous, on marche par la foi. Oui. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu.
En général, le commentaire de Jérémie est juste dans le sens que les anges voient constamment Dieu et nous ne voyons pas Dieu et donc on est appelé à marcher par la foi. Est-ce que c'est juste parce qu'on ne voit pas Dieu que Dieu aurait décidé de nous offrir l'opportunité d'être sauvés puis que là, il y a une dimension de foi? Comme je vous dis, je pense que c'est vraiment l'idée de l'image de Dieu qui est le facteur. Dieu avait ce dessein de toute éternité qu'il allait créer des êtres à son image, que ces êtres-là, parlant de nous, ces êtres-là allaient rejeter Dieu et que Dieu allait venir envoyer l'homme parfait, Christ, que lui allait être sacrifié, lui qui est l'image même de Dieu parfaite, hein, c'est Dieu le Fils, lui-même allait être brisé sur la croix pour pouvoir racheter ces êtres qui, après ça, allait dire non seulement « Seigneur, on t'adore parce que tu nous as créés, mais on t'adore parce que tu nous as créés, tu nous as sauvés, tu nous as recréés en Christ. » D'accord? Et ça, c'était le dessein de Dieu dans l'éternité. C'est ça qu'on va célébrer pour l'éternité. Ce n'est pas le jardin d'Éden qu'on va célébrer pour l'éternité. C'est l'agneau immolé. C'est la recréation qu'on va célébrer parce qu'il y a cette dimension-là de la personne de Dieu, la grâce qui est manifestée. Et ça, dans son dessin, dans sa fresque qu'il est en train de peindre, il fallait qu'il y ait cette catastrophe-là du péché pour que sa gloire soit entièrement manifestée aussi. OK, j'avance parce qu'on est supposé parler aussi de Satan. Puis il ne veut pas qu'on parle trop de lui non plus. Les anges gardiens aussi, merci. Oui, j'y arrive avec notre relation avec les anges. La Bible nous encourage à garder à l'esprit la présence bien réelle des anges et de leur ministère envers Dieu et envers les hommes. L'auteur de la lettre aux Hébreux va jusqu'à nous dire que la réalité de la présence des anges devrait nous encourager dans de bonnes actions. Est-ce qu'on devrait être conscient qu'il y a cette dimension-là spirituelle qui est autour de nous? Bien, l'auteur de la lettre aux Hébreux en fait un argument pour dire, bien, vous devriez même bien servir. Qui sait? Plusieurs ont servi et ont exercé l'hospitalité envers des anges, OK? Fait que, oui, on devrait avoir conscience de ces témoins qui nous regardent aller et qui bénissent Dieu lorsqu'on est en train de glorifier Dieu et certainement qui ne bénissent pas Dieu lorsqu'on est en train de pécher. Alors, on devrait être conscient de cette réalité-là, même si on ne la voit pas. Nous devons nous tenir en garde contre toute doctrine qui voudrait qu'un ange nous apporte une nouvelle révélation. Pardon. Et cela tout particulièrement si cette révélation entrait en contradiction avec l'Évangile transmis par les apôtres. Alors, je ne dis pas que... Je ne suis pas en train de dire que le rôle ange, ça veut dire messager, le rôle de messager des anges n'aura plus jamais lieu. Dieu va se servir d'ange pour annoncer des choses ou pour informer des choses. On pense que la révélation est complète. Et c'est clair que si un ange venait m'annoncer un autre évangile avec des nouvelles dimensions qui, en définitive, venaient contredire ce que Dieu nous a révélé, on est plutôt en train de parler de démons que d'anges. D'accord? Et dans Galates 1:8, lorsqu'il dit « Mais quand nous-mêmes, c'est Paul qui parle, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème », on peut avoir l'impression que c'est rhétorique. T'sais, il est en train de dire « Il y a juste un évangile. Si un homme vous annonce un autre évangile, c'est pas bon. Même si c'était un ange qui vous en annonçait un autre, ce serait pas bon. » Ça pourrait avoir de l'air juste rhétorique, mais je veux dire, c'est ça le mormonisme. D'accord? C'est l'ange Moroni qui est apparu à Joseph Smith puis qui lui a révélé un autre évangile que celui des Écritures. Et lorsque vous lisez bien ce que l'Église mormone enseigne, c'est un salut par les œuvres. La personne de Christ est diminuée, sa divinité n'est pas reconnue, la Trinité est affectée. Fait que c'est un ange, Moroni, qui est apparu à Joseph Smith puis qui a révélé un autre évangile que celui de Jésus. Donc, on n'est pas juste dans la rhétorique, là. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Ou bien il a tout imaginé ça. C'est quand même un autre évangile. Oui. Ce serait un ange déchu ou ce serait une imagination de Joseph Smith. D'accord? Ce passant, OK, c'est beau si je le mentionne. ça va. Nous ne devons pas vouer un culte aux anges et les adorer, c'est clair dans Apocalypse, c'est clair dans Colossiens. Nous ne devrions pas les prier non plus, puisque nous n'invoquons que Dieu seul. Le rôle des anges, premièrement, comme Samuel nous l'a rappelé, c'est d'adorer Dieu. Et donc, pour nous, de commencer à leur vouer un culte à eux, c'est de se méprendre complètement sur leur rôle. D'accord? Et eux-mêmes refusent ça, parce qu'ils savent que c'est pas du tout... C'est pas eux nos créateurs, on n'a pas à les adorer, on n'a pas à les prier. Concernant la question de l'ange gardien, on a l'idée de l'ange des petits-enfants. Il y a comme deux mentions. Pour moi, c'est beaucoup trop vague pour conclure qu'il y a un ange qui est attaché à chaque individu. C'est clair que les anges ont un mandat de protection. Mais des indices clairs qui nous diraient que chaque individu a comme son bodyguard qui est en arrière de lui avec des ailes, c'est toute une théologie qui est allée se développer sur d'autres fondements que sur celui des Écritures. On a juste un indice que Dieu dispatche, Dieu donne des missions, et je serais vraiment mal à l'aise d'aller plus loin que ça. De toute façon, admettons que j'ai un ange qui me protège. Est-ce que je suis supposé lui parler? Non. Est-ce que je suis supposé le prier? Non. Est-ce qu'il est supposé se manifester à moi plus souvent que les anges se manifestent en général? Non. Donc, so what? Peut-être que j'irai prendre un cappuccino avec lui un jour au ciel, puis il me dira, regarde, de telle année à telle année, j'avais une mission sur ton dos, mon gars, j'étais ton protecteur. Yeah! Puis on va louer Dieu ensemble. On verra. On verra de l'autre côté. Mais de développer une... Le problème avec ça, là, c'est que, en général, tout ça porte, nous entraîne vers un culte des anges. D'accord? Notre attention qui est centrée être sur Christ est détournée pour être portée vers un être spirituel. Et ça, c'est clair que c'est mal. Et s'il y en a un qui est là, ben, il est le premier à trister. Là. À moins qu'il soit un ange déchu, là, il est le premier à trister. D'accord? Parce que lui, il ne veut pas que notre attention soit détournée de Christ pour dire « Oh, wow, t'es quelqu'un, toi. » Jamais, c'est Christ. Fait que c'est comme une espèce de question qui relève vraiment des fascinations, ce que Paul décrit comme des contes de vieilles femmes, je m'excuse, là, mais c'est vraiment le terme de Paul, des contes de vieilles femmes qui imaginent des mythes, puis qui ça remplit bien les soirées, sauf que ça distrait de Christ. Oui, Esther.
Est-ce que la notion de détourner notre attention vers les anges, ça ne découle pas d'un cœur centré sur soi? On cherche notre intérêt. Si c'est un ange gardien pour moi, c'est qu'il va me protéger, il va me faire du bien à moi. Fait que finalement, je suis en train de centrer mon attention sur moi en adorant un ange au lieu de Dieu. Puis le plan de Dieu pour ma vie, ce n'est pas nécessairement de m'éviter tous les accidents puis de me protéger de tous les coups de poing, là. Mm-hmm. Fait qu'est-ce que je suis pas en train de me centrer sur moi en adorant quelqu'un qui est supposé me protéger?
Ouais, c'est sûr que c'est sympathique là, de m'imaginer que j'ai mon ange qui est dispatché sur mon cas tout le temps. Fait que oui, je pense que c'est une expression de ça, mais c'est aussi une espèce de fascination qu'on a à vouloir imaginer plus que ce que les Écritures nous révèlent. Et tu sais, au lieu de plonger puis de savourer toute l'œuvre de la croix, non, on va partir. Quand je me suis converti, là, c'était toute la fin de la numérologie, tous les calculs savants pour démontrer qu'avec les Écritures, tu pouvais trouver la lettre centrale de la Bible, puis là, on pouvait démontrer l'inspiration des Écritures avec la numérologie, la valeur numérique des lettres en hébreu, puis tout le kit. Puis là, écoute, les gars m'arrivaient avec des documents comme ça, tu sais, il fallait que je lise ça. Puis là, à mon avis, j'ai dit, quoi, vous voulez que je lise ces affaires-là au lieu de lire la Bible? « Come on, c'est n'importe quoi votre affaire. » Les Écritures ne nous disent pas de chercher ça. Fait que, on en a assez pour plonger les regards toute notre vie. Moi, M. Keefe avait 60 ans lorsqu'il est entré dans ma vie comme pasteur. Puis M. Keefe était encore toujours émerveillé de ce qu'il découvrait dans les Écritures. Ça faisait comme 40 ans qu'il était pasteur. Fait que je me suis dit, les autres théories, là, puis les spéculations, puis les contes, j'ai pas de temps à perdre avec ces affaires-là. Je vais garder mes regards dans la parole, puis j'en ai en masse jusqu'à la fin de mes jours. Le reste, j'embarque dans des incertitudes. Et donc, c'est important, lorsqu'on entend ces choses-là, de discerner quelle sorte de piste les Écritures nous donnent. On a une piste qui pourrait dire qu'il y a des anges qui ont des mandats. Ça, c'est clair. Attaché à des gens, c'est possible. Hein? Au-delà de ça, je rentre vraiment dans la spéculation. Fait que je m'arrête là. Je m'arrête ici, j'ai une révélation qui m'a été donnée. Je m'arrête ou la révélation s'arrête. Puis je commence à adorer Dieu. Tu voulais faire un commentaire?
pense que le point que tu amènes est vraiment super. Quand même, bien qu'on en aurait un, c'est pas là qu'on doit fixer nos regards. Donc, ça, pour moi, c'est clair. Maintenant, il est aussi mentionné que les nations ont des anges et que les donc, ça serait pas impossible qu'on ait un ange à titre à nous, mais so what? Donc, c'est pas la Bible ne nous amène pas dans cette direction-là du tout. Donc, je pense que c'est bon juste de nous ramener sur Christ et non pas de nous laisser distraire par des théories.
Ouais. Quel fut le comportement de Pierre lorsqu'il est sorti de prison? Il ne s'est pas mis à triper sur son ange. T'sais? Il s'est mis à triper sur Christ. C'était ça l'idée. Mais oui, il y a des géographies même, ils ont des secteurs géographiques, on a certains indices de ça, assez clair. L'origine des démons. À présent que nous avons parlé des anges, nous devons logiquement étudier la question des démons et de Satan. Les démons sont des anges mauvais qui ont péché contre Dieu et qui désormais font continuellement le mal dans le monde, visible, invisible. D'accord? Alors, comme j'ai dit, là, si ça vous tente, il faut que vous compreniez que Victor Hugo restait pas toujours dans le cadre de la révélation, mais ceux qui aiment la littérature, lisez La fin de Satan, surtout au début, là, c'est vraiment, tu as l'impression que tu arrives à plonger un peu dans son cœur, dans cette idée qu'il va, encore aujourd'hui, il est convaincu qu'il y a une chance, tu sais, puis il va le planter, puis il va le supplanter, puis ben, les démons travaillent comme ça aussi, ils sont sur ce mode-là. C'est une espèce de crainte, mais pas pour vivre une repentance ou pas pour marcher dans la sainteté. L'origine des démons, pour autant que nous puissions comprendre, les démons étaient à l'origine des anges créés par Dieu pour son service, qui se sont par la suite rebellés contre leur Créateur. Pierre nous parle de la chute des anges dans 2 Pierre 2,4, aussi Jude 6, alors je l'ai lu tout à l'heure. Pardon. Nous trouvons aussi une référence probable à la chute de Satan. Il y a des éléments dans Ézéchiel, dans Ésaïe ici, il y a une description de la chute d'un roi qui, à un moment donné, par exemple, lorsqu'on lit les psaumes, il y a des psaumes que tu es en train de lire, tu lis le psaume, puis à un moment donné, tu dis, attends un peu, c'est plus David, là, c'est Christ. Là. C'est impossible que ce soit David. On est rendu avec Christ. Là. Et donc, on est dans des textes qui sont prophétiques, et régulièrement dans les textes prophétiques, il y a deux récits qui sont superposés dans le texte. Puis, c'est là que tu vois que c'est quand même des prophéties. C'est pas là pour tout nous révéler, mais pour annoncer des choses. Et donc, dans cette description d'Ésaïe 14, ce roi-là qui tombe, on n'est plus avec un roi juste humain, il y a quelque chose là. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Es-tu vraiment un roi qui a pensé ça? Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nus, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts dans les profondeurs de la fosse. Alors, on a probablement ici la chute de Satan qui est décrite. Satan, chef des démons. Satan, dont le nom signifie adversaire, est sans l'ombre d'un doute le chef des démons. Il nous est présenté comme l'adversaire de Dieu et de Christ à plusieurs reprises. Je vous donne plein de mentions. Mais il ne semble pas y avoir personne au-dessus de lui. C'est comme lui qui est à la tête du projet pour essayer de renverser Dieu. C'est lui qui vient personnellement tenter le Christ au désert. Je veux dire, s'il y avait une place où le boss va être présent pour essayer de faire tomber ça, c'est là. D'accord? Mais il a décidé de relever le défi lui-même. Et il a perdu. L'origine des démons. Excusez-moi. Non, je suis ici. Oui. Non, c'est ça, dans Satan. La Bible le présente aussi sous d'autres noms tels que le diable, le serpent, Belzébul, le prince de la puissance de l'air, on en a d'autres encore. Et lorsqu'on les regarde en général, notre conclusion, c'est qu'on parle toujours du même personnage. L'activité de Satan et des démons. Satan est à l'origine du péché. Satan a péché avant tout être humain, puisqu'il est le tentateur, d'accord? Lui, le péché avait déjà fait son œuvre en lui et la tentation qu'il propose, c'est déjà conçu dans le péché, cette tentation-là, lorsqu'il vient tenter Ève. Il est meurtrier dès le commencement, il est le père du mensonge, nous dit la Bible. Jean 8, 44, 1 Jean 3, 8. Il semble donc que le diable est à l'origine du péché et qu'il est celui qui a incité tout autre à pécher. Tout découle de lui au niveau du péché. Les démons s'opposent à toutes les œuvres de Dieu et essaient de les détruire. Satan et ses démons tentent par tous les moyens possibles de contrecarrer les desseins souverains de Dieu. Ainsi, le diable a tenté Jésus pour le détourner de sa mission. Satan et ses sbires utilisent le mensonge, le meurtre, la séduction pour détourner les élus de leur mandat et de leur service à Dieu. Dans ce sens-là, on comprend que c'est vraiment juste une histoire, mais Tactique du diable de C.S. Lewis est intéressant à lire, parce que quand même, au niveau du mensonge, de la séduction, tout ça, il a essayé de comprendre comment ces êtres-là travaillent. C'est juste une histoire, c'est vraiment juste une histoire, mais c'est ce qu'ils font, le mensonge, le meurtre, la séduction. Mais les démons sont soumis à la souveraineté de Dieu et possèdent un pouvoir limité. L'histoire de Job en est un exemple criant. Je veux dire, on voit très bien la limite du diable dans le livre de Job. C'est Dieu qui dit, je te permets d'aller jusque-là, je ne te permets pas. Jérémie.
Mais est-ce qu'on peut dire que les démons ne sont pas encore en enfer, si on veut, en fait, Jésus, quand il vient voir un démon, puis il lui dit, tu es venu pour nous perdre, puis qu'il chasse le démon, est-ce qu'il est chassé directement, mais il ne chassait pas directement en dehors du corps, mais directement dans la GN?
Je pense pas. Il les chasse parce que Jésus dit qu'ils peuvent revenir.
Ah, OK.
Fait que non, il les chasse, puis ils ont la possibilité d'intervenir à ce moment-là encore et de continuer à venir. Les démons aujourd'hui, nous ne devrions aucunement douter de la réalité de l'existence et de l'activité des démons aujourd'hui. Il est certain que notre vision profondément matérialiste et naturaliste, c'est-à-dire qu'on ne croit pas à tout ce qui est surnaturel, nous amène à douter de leur existence et de leur activité. Pourtant, comme nous voyons que les tactiques et les astuces du diable ont été diverses à travers l'histoire biblique, nous pouvons conclure que ces derniers ont le génie de s'adapter à notre incrédulité. Quand vous lisez les Écritures à partir de la Genèse, il y a vraiment des périodes où ça se passe différemment, puis ils travaillent différemment. Et lorsqu'on regarde le génie, si je peux dire, de Satan, pour essayer de renverser l'œuvre de Dieu, on doit avoir l'intelligence de dire, ils sont là, ils travaillent autrement. De temps en temps, c'est sûr qu'on est, on est en Occident, et donc on entre moins en contact avec des manifestations qui ressemblent à celles qu'on trouve dans les évangiles. Il y en a encore. Personnellement, j'étais en contact avec certaines choses. Fait qu'il y en a encore. C'est moins visible. Vous allez dans d'autres pays, puis ça va être plus présent. Puis nous, on va avoir tendance à se dire comme occidentaux, c'est parce que ils sont crédules, eux autres. Fait qu'ils en voient partout. T'sais. J'ai plutôt l'impression qu'ils s'adaptent à notre incrédulité. Oui, Karine? Tu veux-tu répéter ta question au micro? Je m'excuse.
On ne voit pas que les anges possèdent des humains. Alors, pourquoi est-ce que les démons qui sont sensiblement pareils, sauf qu'ils ont péché, eux sont capables de posséder des humains?
OK, je vais juste voir si... je vais répondre à ta question, là. OK, toute cette question-là de possession, là, il y a un problème avec le terme. Grudem fait un beau travail avec ça, là. La vraie manière de traduire l'expression qui est là, c'est que c'est quelqu'un qui a un démon. OK? Fait que toute l'idée de possession, de non-possession ou est habité, c'est quelqu'un qui a un démon. Donc, il y a un démon qui exerce un ministère maléfique envers lui ou qui essaie de le faire tomber. Dans certains cas, même, qui arrive même à prendre une bonne partie du contrôle de la personne. Ça, c'est clair. Pourquoi les anges ne le font pas? Je spécule, là, mais je présume tout simplement qu'ils respectent que ce n'est pas leur mandat. Ils n'ont pas à prendre le contrôle d'un être humain. On a été créé à l'image de Dieu. Les démons, est-ce que ça veut dire qu'un ange ne pourrait pas le faire? Ben, je pense qu'en le faisant, il deviendrait un ange déchu, puis il pourrait le faire. Mais toute cette idée-là, là, c'est parce qu'après ça, il vient toute la question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon? C'est lié à cette espèce de mauvaise traduction-là. Qui dit qu'on est possédé, il y a des gens qui sont possédés par un démon. Il y a des gens qui ont un démon, donc il y a une influence démoniaque dans leur vie. Et c'est clair, hein, dans Éphésiens, qu'un chrétien peut donner accès au diable aussi, par exemple, par sa colère. D'accord? C'est clair dans le texte. Donc, je peux, par certains péchés, permettre à certains mensonges du diable d'être là, puis de venir prendre la place dans mes pensées, puis dans mon cœur aussi. Fait que, c'est pas une possession. Ce qu'on va faire, là, parce qu'il reste quand même une partie importante, puis il y a toute l'idée du combat spirituel, OK? Fait que la page 8, là, il nous en reste pas pour long, mais ça vaut la peine de prendre un bon 10 minutes dans deux semaines. Dans deux semaines, on va terminer 3 et 4. Vous pouvez prendre le temps de le lire. Et puis, on va entrer dans la doctrine du péché aussi. D'accord? Merci beaucoup. Alors, la semaine prochaine, il n'y a pas de cours pour ma classe à moi. Toutes les autres cours ont lieu. Nous, on va être à l'extérieur. Merci.